dans le studio jour ou dans le studio nuit, c'est Plumé Pinceau. Et vous avez vu, nous sommes passés dans le studio jour.
Bah, moi, j'ai cru qu'on était promotionnés.
Ouais, ah bah ouais, moi aussi. Bah, c'est maintenant qu'on est, on est passé à une espèce de trio à géométrie variable et du coup, ils ont son. On a monté en gamme, quoi.
Ouais, peut-être.
L'émission bon, après oui. Du galon, je pense.
Ouais, ouais. Ou c'est peut-être vous qui avez voulu épater Matadora, puisque c'est elle dont il s'agit ce soir. Parce que avec les deux gars, vous vous accommodez bien du petit studio.
Ouais, c'est vrai. Oui, oui, recevons. Allez, recevons dignement, effectivement, Matadora, qui vient avec nous dans cette émission. Une émission intégralement consacrée à des chroniques. Il y a un petit peu des bilans aussi. Moi, j'ai un bilan à vous proposer. Hein, on va voir si on a été bon un petit peu dans cette début d'année. Et puis, vous êtes venu avec un quiz, c'est pas ça? Il n'y a pas un quiz?
Je sais pas, il paraît que vous aimez bien les quiz.
Vous voyez, à force de les provoquer, Roger, vous les énervez.
C'est surtout,
vous les énervez.
Vous, hein. C'est surtout à vous que j'avais donné des quiz. Je n'aurais pas fait de misère. Alors, c'est vrai que j'aime bien leur poser une petite question technique. Est-ce qu'un livre qui a un défaut vaut plus cher, comme les timbres et tout? Mais là, vous avez de la chance, Madame Matadora. J'étais moi-même pas très frais. Et en plus de ça, j'étais à la campagne. L'Internet ne marchait pas. Et du coup, j'aurais pas de questions à vous poser. J'en suis fort mari.
Ah, bon. Eh bien, tout ça s'accompagne d'une programmation musicale. Alors, No Doubt, c'est un morceau particulier, c'est ça? Il est dédicacé.
Tout à fait. Il est dédicacé à une petite fille qui s'appelle Olivia.
Voilà, c'est pour toi, Olivia. Voilà, ce morceau était dédicacé à
Olivia.
Olivia, c'était pour toi.
Alors, vous n'êtes pas forcé de prendre ce ton-là. Écoutez, on est assez dans merde.
L'agression.
Mais c'est quoi, surtout complètement. Une fille, il faut qu'il prenne une voix de curé. Non.
Mais c'est inquiétant.
Alors là, ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez ça alors que je le trouvais tout
pas,
à fait normal.
Je le vois pas, je l'entends.
Tu l'entends.
Et ben, heureusement, les auditrices, auditeurs, ne voyaient pas votre espèce de sourire de père de Bétarame. Comment dirais-je.
Il est temps de prendre une pause, Roger. Il est temps, vous devenez mauvais, vous avez trop chaud. Je sens que vous avez trop chaud.
Il n'a pas dormi cet après-midi.
Ouais, j'ai pas fait masser, j'ai prévenu Matadorin, je serai chafouin.
Ah oui, mais on est venu plus tôt, mais on a le grand studio.
Oui, ouais. C'est vrai.
Alors, faut être. Voilà, bon. Alors, j'avais envie de faire un petit bilan. ça sent quand même, hein. On va compter nos points. Je vous propose un jeu. Alors, il y a l'Association des journalistes et critiques de bande dessinée, l'ACBD, qui dévoile sa liste des 10 indispensables de lecture à emporter partout cet été. Et j'ai envie qu'on regarde si on avait fait des bonnes pioches. Parce que quelque part, c'est des reconnaissances d'un certain nez creux. Et ça serait bien de voir si on a le nez creux, nous aussi, quoi. Pas du tout, quoi. Et puis bon, il y a des grandes questions. Ratige pas celle-ci dans la liste, ouais. Tout ça. Il va y avoir matière à débat.
Ouais, moi, à mon avis, vous l'avez lu d'avant. Il va gagner.
Bien sûr, j'ai regardé.
Ah oui. Je vais avoir zéro.
Écoute, le collectif, ce n'est pas mauvais. Ah. C'est bien. Ah. Bon,
c'est
alors, y sommes-nous tous? Telle est la question. C'est un peu ça. Voilà. Donc ça fait un point par BD qui figure dans le top 10, on est d'accord.
On est d'accord.
Le top 10 de ces gens-là.
De ces gens-là, mais voilà. Qui représentent la profession,
Roger.
Je les connais même pas. Ils représentent la profession quand même. C'est des collègues, c'est des critiques comme nous.
J'attends de voir ce qu'ils ont dit avant de les collègues.
Fait trop chaud, hein, Roger, vous êtes mauvais et suspicieux. Bon alors, premier tome, La Terre Verte, Alain Hérol, Hervé Tancrel, Delcourt. Bon, on n'a pas ça.
On n'a pas fait ?
Non. On en a parlé, on l'a regardé, parce que Tancrel, c'est du beau dessin. Ouais. C'est un truc à la Hamlet, ça a l'air très shakespearien comme histoire.
Tout à fait.
C'est pas en Islande ou je sais pas où.
C'est au Groenland.
Au Groenland,
La Terre Verte, Greenland, Groenland.
Et il faut qu'on fasse gaffe.
C'est pour ça qu'on a besoin de renfort. Tu vois, il y a des gens précis dans les termes.
Et dans la traduction. Pourtant, je vous croyais.
Et elle va nous le dire en islandais maintenant.
Vous croyez bon en anglais jusqu'à.
La Terre Verte, Isle Bleu.
Attendez, mais Matador. Elle ne représente pas seulement qu'elle-même, parce que pour être juste, il faut aussi qu'on compte les points pour M. Fifrelin et Carpetier.
Ah oui, mais s'ils sont là, ils auront un point. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ça va être fair play, Roger.
Bon, il n'est pas complète.
Voilà. Alors, je ne sais pas si il faut le considérer comme leur grand favori, s'il y a un classement. Voilà. Il y a 10 noms, mais ils n'ont pas mis 1, 2, 3. Donc celui-là, on ne l'a pas. Watership Down, ça, on l'a.
On l'a
eu la semaine dernière. C'est Monsieur Carpetto. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture, là, James Sturm et Joe Supine. Les petits lapins, Roger.
C'était trop bien, l'adaptation du roman.
Je peux le dire, je l'ai noté.
Ouais, tu l'as noté, mais le point, il est donc pour Fifrelin. One point.
Adams,
Carpetto, oui, t'as raison.
Sturm.
Voilà. Carpetto, one point. Chine Zero, Mathieu Badier, Saint-Gelin, Rude. Ça, c'est chez moi! Rude Sèvres, la belle 619, tout ça, c'est moi. T'as peur, Roger ?
Non, je suis pas inquiet.
Beneath the Trees, chez Ankama. Ouais, on l'a lu chroniqué, ça, je crois pas. Hein.
Non, on y a pensé, je pense, plusieurs fois, mais on l'a pas chroniqué. En tout cas, on conseille beaucoup.
C'est vrai ?
Donc, c'est un peu comme si on marquait un point.
Ouais, 0,5 pour la bouteille. Vous l'avez lu, ça ?
Ouais, c'était hyper bien.
C'est quoi, en gros, l'idée ?
Beneath the Trees, on est un peu sur une histoire à la Dexter, la série, vous voyez, avec le tueur.
Un tueur en série.
Et là, en fait, on a une petite oursonne, donc c'est des animaux. Mmh. On a une petite oursonne qui vit dans un petit village, apprécié par tout le monde. Alors, je vais pas spoiler, c'est juste le début de la BD. On voit qu'elle a un petit passe-temps bien à elle, c'est qu'elle, souvent, elle va à la ville et elle dézingue quelqu'un pour le plaisir. Et elle fait jamais ça dans son bled parce qu'elle veut pas se faire choper.
Mais un jour,
lors d'une grande parade, sur un char, il y a un corps et c'est pas elle qui a fait le coup. Donc il y a quelqu'un qui lui fait de l'ombre. Donc on a une double enquête et c'est trop bien.
Ouais, ça a l'air pas mal, ça.
Ouais.
Avec
ça
des animaux.
Un peu sanguinolent, quand même.
Ouais, c'est sanguinolent. Je pense que ça vous plairait pas. Ouais. Non. Trop dur.
Déconseillé par Roger. De Pierre Edos, Kradzinski, Bérangère Cournette, chez Dupuis, Air Libre.
connais pas. Je l'invente, c'est pas une histoire de chez les Esquimaux.
Si, tout à fait. D'accord. C'est l'adaptation d'un roman,
très beau.
Exactement.
J'ai suivi les travaux préparatoires sur Instagram, comme tout ce que fait Monsieur Krasinski.
Beau dessin, oui.
C'est excellent. Et comme on a vu pas mal de travaux préparatoires sur son fil, et ça doit être très très joli. Notamment, d'après ce que j'ai vu, un travail sur les couleurs terribles pour rendre. Il n'y a rien de plus mal difficile à coloriser que le blanc, quelque part.
Et ça se passe au Groenland ?
Ouais.
Ah bah encore le Groenland, le schnuck bleu.
Je l'ai
la
pas
terre
lu.
Verte.
Mais je ne l'ai pas lu.
Le schnuck bleu.
Alors là, il va y avoir débat. The Nass House by the Sea.
Ah oui.
Alors c'est vrai que c'est la deuxième saison, on va dire, qui s'ouvre. Alors moi, je l'avais chroniqué au moment de la première, j'avoue.
Ah oui.
Quand
mais
il
là,
était venu en dédicace dans une certaine boutique dont on taira le nom.
C'était tellement bien.
Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était très bien. Donc bon, ok. Je passe le point. Je veux bien dire que je l'ai pas. Je le revendique pas. C'est une nouvelle saison.
Mais non, c'est le deuxième tome.
J'aurais pu prétendre.
Mais non. Il y a des limites.
La liste avance, ça commence à stresser, non ?
Hein ?
On se demande si on va être dedans. Un point pour l'honneur, quoi, pour rester propre.
Même là, je m'en fiche.
Trou de mémoire, Nicolas Junker.
Ah.
Le Lombard.
Non ? Ah non ? Vous aviez fait les mémoires de Dragon Dragon.
Mauvaise pioche, Roger.
Ah. Ouais, mais
vous avez chroniqué du Junker ?
J'ai chroniqué de Junker à deux reprises, mais pas celui-là. Ah si, trou de mémoire, mais si je l'ai fait, je suis con. Trou de mémoire, c'est sur le projet.
Vous voulez illustrer le titre.
Mais oui, c'est le projet.
Vous donnez cher à l'album.
Le projet d'un musée sur l'Algérie.
Ah, bah, j'en sais rien, moi, je m'en souviens absolument pas.
BD jaune avec des trous.
Et je l'ai lu, mais est-ce que je l'ai chroniqué ? L'ai-je chroniqué ? Peut-être que je ne l'ai même pas chroniqué.
Du coup, on ne peut pas vraiment attribuer le point.
Ouais, sans assurance.
Non, monsieur Fifrelin.
Non. Bah non, cherchez ça dans vos chroniques, pas dans celle de Fifrelin.
Non, mais je veux bien effectivement passer le point, mais je l'ai lu, mais pour un peu, je ne l'ai même pas chroniqué, vous imaginez.
Eh ben voilà. Dommage, j'ai envie de dire bien essayé. Alors, si je vous dis Sixtine Dano.
Ah oui, Sibylline.
Ouais, elle
trop
est dedans.
Cool.
Elle est dedans. One point pour vous.
Yes.
Et toujours rien pour Roger.
Eh non, toujours rien.
Ni pour le Fifrelin d'ailleurs.
Bah, Fifrelin, il ne l'a pas fait, trou de mémoire, justement.
Ah, il y a combat. La boutique dont on taira le nom fait bataille.
Trou de mémoire, c'est lui qui me l'a conseillé, monsieur Fifrelin.
Ouais.
Et je l'ai acheté et je l'ai lu. Il est excellent. Et j'aime bien le travail de Nicolas Junker, qui avait gagné d'ailleurs le prix Militaria l'année dernière et qu'il avait refusé.
C'est vrai.
Et ouais, c'était un général des généraux en compagnie de monsieur Bouc.
Ouais, mais pour le moment, on n'a pas de preuves.
Non, mais je m'en fiche.
Bon, on peut leur mettre 0,5 chacun, sinon dans le doute.
Ah, oh, ouais, c'est l'aumône. Hein. J'ai une pièce, mais 20 centimes, quoi.
Après, il va être tout triste.
Ensuite, après Sibylline, chronique d'une escotte girl, Fantasy.
Ah oui,
par
Yohan.
Ouais, qu'avec.
Eh, c'était pas gagné, celui-là, pourtant. Vous avez failli jamais le lire. Hein.
Non, mais il voulait pas le lâcher. Il voulait pas le lâcher. Mauvais qu'il était. Non, je suis content de lui avoir coupé l'herbe sous le pied, du coup. Parce que le point est pour moi. Si je me trompe pas, ça m'en fait deux.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et les poissons, eux, ne pleurent pas.
Ça, c'est moi.
Ah, Jean-Denis Pendanx.
Eh oui.
Sauvé, sauvé par Daniel Maghan et Emmanuel Klein.
Non, mais monsieur Pendanx, dont je loue le travail depuis des siècles, un monsieur très, très gentil, d'une modestitude rare. Modestitude, gentillure, je dirais, et surtout,
amicalité
et talentueux.
Top.
Super. Voilà.
Et il est également, il est peintre, ce monsieur.
Oui,
d'ailleurs,
peintre.
Le plus sérieusement du monde, il m'a dit qu'il était à la recherche de galeries dans lesquelles il pourrait exposer ses travaux. Et c'est peut-être pas par hasard, justement, que ce soit Daniel Maghan qui publie ses BD.
C'est clair. On s'écoute un petit morceau de musique et ensuite on revient avec un quiz, c'est ça ?
Allez, ouais.
Ah, on a une thématique, quelque chose ?
Bah, la science-fiction en bande dessinée. Je vais vous épargner cinéma, littérature. Je me suis concentrée sur la bande dessinée parce que
c'est littérature
sympa.
Qui fait que vous voulez pas le faire avec nous ?
Non, mais moi, j'aurais pu.
Pas du tout.
What ?
Non, mais c'est pour qu'il y ait moins de questions. Surtout.
Après, vous allez vous ennuyer.
C'est ça.
Ok. Programmation, alors. C'est à Roger, mais j'ai envie de dire c'est Erwan.
Ah bah voyons,
il s'attribue tout, tout.
Je vous ai filé ce morceau, je peux le prouver. Il suffit de regarder sur le blog. The Meth, Broken Britain, Broken Brains.
Thank you.
The Meth, avec les Larsen et tout.
Ouais, déjà le nom, tout est dit dans le nom du groupe déjà.
Ouais, un duo bien énervé, originaire des îles britanniques. Donc pas de Groenland, pas du Schneekeblue.
Non, nope. Et nous passons maintenant.
Un quiz.
Passons maintenant à un quiz que nous a réservé Madame Matadora.
Mais tout à fait, alors je me permets juste une petite introduction avant, puisque ce quiz... je ne l'ai pas inventé. Là, pour cet été, il y a eu des petites sorties, des cahiers de vacances. Vous connaissez les cahiers de vacances pour les enfants. Et bien maintenant, il y en a de plus en plus pour les adultes. Alors, il y en a un premier qui s'appelle « Petit coloriage pour préparer ton avenir » qui est sorti chez Fakir avec une préface d'Emeric Lompré. voilà, c'est ça. Donc, petit coloriage pour préparer ton avenir, c'est Karim Chérifi, Philippe Laumont et Guillaume Meurice qui nous ont préparé des petites pages de coloriage, notamment sur l'hôpital public, la sécheresse, l'éducation nationale, l'immigration, que des sujets qui font débat, évidemment. Donc, c'est très drôle, c'est très sympa. Si vous vous ennuyez sur la plage, et très, très ludique.
Bien fichu. Donc, on a le texte à gauche, par exemple, sur l'école ou les violences policières.
Tout
et à
fait.
Droite, on a un joli dessin.
Alors,
on est assez free, par contre, pour les couleurs. On peut faire ce qu'on veut. Apparemment, j'ai pas vu d'indication.
On fait ce qu'on veut. C'est vraiment la liberté totale. On se fait plaisir, vraiment. C'est vraiment pour bronzer avec classe,
voilà.
Au camping, à la plage.
Et si ChatGPT nous a pas totalement carbonisé le cerveau, on a des petites questions et on a des commentaires pour nous dire justement ce qui va se passer pour chaque domaine, si j'ai bien
absolument,
compris.
Absolument, ouais. Voilà, si tes grands-parents ne te gardent pas pendant les vacances, ils ne t'aiment pas, ils travaillent encore, ils sont morts au travail.
Ouais.
Voilà, ce genre
pour
de petite ce genre
avec
de
classe,
quiz.
J'adore la ouais. J'adore l'argument.
Oui, c'est ça, bronzer avec classe toujours.
Petit
élégant, quelles que soient les conditions.
Petit coloriage, ça s'appelle, ça a l'air très bien à emmener sur la plage. Parental advisory comme ça vous
prévenu. Quand même, ouais. Mais en tout cas, voilà. Sachez que cette petite merveille existe en librairie.
Elle se trouve en librairie, pas dans les kiosques.
Alors, je ne sais pas si c'est en kiosque. Je vous avoue, je suis pas allée voir. C'est possible qu'on puisse le trouver. Nous, en tout cas, on l'a. Et j'imagine que dans d'autres librairies, vous pouvez le trouver également.
Ok.
Ce qui m'amène du coup à mon second cahier de vacances, puisque Métal Hurlant a décidé de se rajouter un petit peu de travail, ce qui publie quand même pas mal en ce moment, et ils ont décidé de faire un petit cahier de vacances, donc avec que des jeux et des pages de pop culture, donc des petits articles autour de cette culture, et donc beaucoup de quiz, de mots mêlés, pareil, pour
et
vraiment...
Des tests.
Et puis pour être actif, là c'est être actif sur la plage, c'est ne pas scroller sur son écran de téléphone, c'est vraiment... être actif, pareil, toujours pour bronzer avec classe et puis gagner
Mais il y a toujours dans les magazines de l'été, il y a toujours des quiz.
Mais c'est ça, les quiz. Y a,
votre
je crois qu'il y a même des tests. Mais oui. Avez-vous un maximum de A, de B? Mais oui, ça, il y en a dedans, évidemment.
C'est très, très bien. Et en fait, vous voulez nous soumettre au détecteur.
Ben, voilà, c'est ça. Je me suis dit que.
Alors, c'est la science-fiction.
Certainement plaisir. Donc, c'est la science-fiction en question. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme je suis sympathique, alors il y en a beaucoup puisque c'est sur plusieurs pages, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous les poser.
Une sélection.
Et on va se concentrer sur la bande dessinée puisque c'est quand même notre spécialité.
Oui, j'ai bien compris que la littérature, c'était pas notre truc.
Non, okay, mais il y a cinéma, mais il y a plein de questions, je suis sûre, auxquelles vous pourriez répondre, mais très très facilement. Mais je me suis dit que restons dans le thème.
D'accord, restons dans le thème.
Okay. Si ça vous va. Après, on peut sortir de sentier battu, hein. Moi, ça ne me dérange pas, je sais que vous allez répondre, vous allez
je avoir dis
bon
banco,
partout.
Moi.
Alors, êtes-vous prêts?
Ouais.
Première question.
On répond comment? On lève la main? On fait quoi?
Bah, le premier qui sait.
Ouais, les auditeurs peuvent jouer aussi. Il faut lever la main. Celui qui lève la main prendra la parole.
Ou alors vous criez très fort.
Très très fort.
Alors, réputés pour ses valeurs humanistes, fraternelles et anticolonialistes, Les Pionniers de l'Espérance est une bande dessinée qui fut d'abord publiée dans la presse fin 1945. Mais dans quel périodique? Dans Spirou, Vaillant, L'Intrépide ou Le Journal de Mickey?
Les Vaillant. Pionniers de
Vaillant. Je
et c'est
Vaillant.
Une bonne réponse à ma gauche.
Ouais, mais ça, c'était avant la télé couleur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je savais qu'il aurait la défaite un peu difficile.
Mauvais choix.
Mais c'est un bon point pour Monsieur Roger.
Je panique pas. C'est la première question. Bah voilà, ouais, je l'ai pas.
Vous
mais
j'étais dans les choux quand même.
J'étais même pas né, je pense.
On réglera nos comptes après. Deuxième question. De quel célèbre personnage littéraire le mangaka Osamu Tezuka s'est-il inspiré pour créer son robot super-héros Astro Boy, qu'on connaît tous bien? Est-ce qu'il s'est inspiré de Superman, de Pinocchio, de Mickey Mouse ou de Peter Pan?
Pinocchio.
Ah, tu peux redire une fois?
Superman,
ouais,
Pinocchio, Mickey Mouse,
j'aurais presque
Peter
pris
Pan.
Pinocchio.
C'est votre dernier mot tous les deux.
Vous avez le droit. Ouais.
Et bah, bravo. Ouais. C'est bien Pinocchio, puisqu'effectivement, ouais. C'est un petit personnage.
Je crois que j'avais lu ça aussi, ouais. Parce que c'est presque une créature qui devient humaine, quoi.
Oui, tout
un
à
robot.
Fait.
Un robot ou une marionnette. Donc mais ça fait un point.
Un point chacun.
Égalité.
Enfin, non, deux et un. Maintenant, il
deux
avait dit
un.
Pinocchio aussi. Hein.
Eh ouais. Et même avant vous, d'ailleurs.
C'est vrai.
Ah, j'avais pas entendu que vous aviez dit Pinocchio.
Il l'avait dit. Allez, encore une.
Ouais,
bien sûr.
Sous la plume de son créateur, un célèbre personnage de comics a aussi vécu des aventures BDSM, dans lesquelles ses pouvoirs de super-héros ne lui étaient d'absolument aucune utilité. Qui est-ce? Est-ce Superman, Batman, Captain America, Hulk? Hulk en BDSM, ce serait coolos quand même.
Moi je dis Batman.
Moi je dis Hulk.
Eh bien, c'est un échec.
Ah, c'est qui?
C'était Superman, figurez-vous.
Ah, j'ai eu peur que ça soit Captain.
Non, c'était Superman.
On touche pas à Captain.
Bah, par contre, ouais, Superman.
Ouais, mais ça casse le mythe.
Bah ouais.
C'est bien. C'est un peu.
C'est ça, ouais. Je pense que ça lui aura fait du bien de.
Voilà, il s'est ouvert des horizons.
Donc, c'est plein de quiz qu'on peut trouver.
Voilà.
Il
n'y
a pas de BD là, par contre. Là, c'est
non,
un petit fascicule.
Y a pas de BD. C'est un fascicule. Il y a des quiz. Il y a quand même si. Ah là, si, il y a un truc qui va vous plaire. Il y a un super poster dedans.
Ah. Et est-ce que c'est un poster de?
Alors, c'est un poster. Je crois que c'est une. Voilà, c'est ça. Un petit poster comme ceci. Là, c'est un petit paysage dans celui-ci. Et c'est illustration issue de À la recherche du mob de Jean Dallin, Métal Hurlant numéro 3. En fait, ils ont repris des illustrations des numéros de Métal Hurlant. Et voilà, les petits. C'est vraiment quand même globalement du quiz et du jeu. Mais écoutez, il y a un bel article aussi à la fin, là, sur les humanos de 1995 à 2005. Donc voilà, on peut apprendre plein de choses.
Ça se présente comme un cahier.
Ça se présente, bah, c'est vraiment du cahier de vacances et
magazine.
Ça coûte 12,50€. Donc c'est.
Après, tu retrouves ce qui fait l'identité visuelle
de Métal Hurlant, ouais, tout à fait.
Métal Hurlant, etc. Ouais, c'est marrant.
Mais voilà, pour rigoler un peu à la plage et toujours, je le répète, pour bronzer avec. Classe et distinction.
Voilà, c'est excellent ça. Interlude musicale et ensuite on se lance dans nos chroniques les gens. Allez, moi aussi j'ai des envies estivales et du coup j'ai des musiques qui me viennent en tête.
and the god's giving it all he got. And the god's job is 6 to 9, and the god's home by 9:05. And the god helps to cook the steak, and the god helps to wash the plates, and the god puts the kids to bed, and the god reads a book to them.
Why can't you be like Endicott?
And the god loves Jabina's soul, and the god put her on a pedestal, and the god's wish is her command, but and the god don't make no demands. Endicott's always back in time. Endicott's not the cheating kind. Endicott's full of compliments. Endicott's such a gentleman.
Why can't you be like Endicott?
'Cause I'm free. Free of any major order liabilities. Thank God I'm free. 'Cause it's hard enough for me to take care of me. Oh, oh. Endicott's carrying a heavy load. Endicott never really ever moans. Endicott's not a wealthy guy, but Endicott pays the bills on time. Endicott's got ideas and plans. Endicott's what you call a real man. Endicott always will provide, 'cause Endicott is the family tie.
Why can't you be like Endicott?
'Cause I'm free. Freer than a pirate on a frigging out at sea. Just like a tumbleweed, oh, oh. Maybe I need me someone, someone who isn't undone. Maybe an older woman tolerate me. Maybe that certain someone, older and wiser woman. Maybe the perfect someone satisfies me for sure. And the guy keeps his body clean. And the guy don't use nicotine. And the guy don't drink alcohol. And the guy use no drug at all. And the guy don't eat any sweets. And the guy don't eat piggy feet. And the guy's brain is mighty strong. And the guy make love hard and long.
Why can't you be like Endicott?
And the guy loves Tribina's soul. And the guy walks up to the stone. And the guy likes to hold her hand. And the guy's proud to be her man. And the guy stands for decency. And the guy means formality. And the guy's the epitome. Endicott stands for quality. Endicott. 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 I'll never be like Endicott.
Oui, oui, c'est le kit créole, effectivement, Roger. Le kit créole et les fameuses coconuts. Voilà. Hein, qui accompagne le zazou que Monsieur Kid Creole. C'est les années 80.
C'était,
je suis d'accord.
Zoot, ils appelaient ça ou je sais pas quoi. Le
costume. Ouais, une espèce de truc comme ça. Ouais. Mais il est magnifique. Il est avec son costume. Enfin, moi, j'aime beaucoup le personnage. Il a un costume, on dirait le loup dans tu sais l'histoire,
oui,
avec le lapin.
Avec le petit chapeau.
Ouais. Quand il est bien habillé, etc.
Avec un costard, avec des épaulettes et un front large. Ouais.
Ambiance. Comme dans Les Cloches. Je sais pas si vous souvenez de cette BD.
Dodo et Ben Radis.
Dodo et Ben Radis. Ouais, c'est ça. Ou le groupe. L'affaire Louis Trio avec ces looks là, c'est très rigolo, j'aime bien, enfin du groove. Honneur aux dames,
allez,
si je puis me permettre de genrer,
bah allons-y.
Alors ça, Roger, il a eu les poètes de le lire, c'est ça?
Bah il paraît, ouais. Alors je ne sais pas ce qui l'a effrayé, peut-être l'épaisseur,
c'est noir et blanc, ça lui fait peur.
Et puis c'est surtout que, comment dirais-je, pour avoir fait quand même beaucoup de vélo, quand j'ai lu le sous-titre à vélo de la Bretagne à l'Iran, pouf.
Beaucoup trop long.
Ouais. Too much travail.
Ouais, je me suis dit non. Mais alors par contre, il faut louer. Alors, je l'ai vu, hein, je l'ai vu sortir, j'ai regardé et tout. Mais
il était en devanture dans certaines boutiques.
Oui. Ouais, dont on tira le nom.
Ouais, dont on tira le nom. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est un trajet. Alors donc, c'est une jeune fille, une jeune femme,
Isabelle
qui a décidé,
Del Real,
et qui décide, pouf, de partir comme ça, toute seule, de Rennes même ou à d'ailleurs.
Non, de Plouer-sur-Rance.
Okay.
Du coup, d'où le
nom Plouer-en.
Exactement.
Oui, je suis ballot. Ah oh, bah oui,
vous suivez pas en fait.
Branleuse. Donc racontez-nous. Alors qu'est-ce qui lui a pris comme
Laissez-la parler.
Ah oui.
Mais c'est ça, c'est les personnes de plus de 50 ans qui monopolisent la parole.
Je suis désolé.
Ça me fait penser à votre BD, j'ai envie d'envoyer un truc au courrier des lecteurs. Mon chien n'arrête pas, mon âme n'arrête pas d'aboyer. Comment le faire taire ?
Mais c'est parce que je sais que vous aviez terriblement envie, vous aimeriez le lire.
C'est aussi parce qu'on m'a mis en accusation, c'est pour ça que je me suis défendu.
Donc, Plouhéran d'Isabelle Del Real, c'est vraiment super. Elle raconte vraiment tout son périple à vélo. C'est une jeune femme qui, arrivée à la fin de ses études, ne savait pas trop quoi faire, avait envie aussi de faire un peu autre chose, pas envie de travailler tout de suite. Mais c'est pas une jeune fille qui était forcément hyper sportive ou qui faisait du vélo. Mais sur un coup de tête, effectivement, comme vous le disiez, Roger, elle s'est acheté un vélo à monter elle-même, qu'elle a monté tant bien que mal. Et elle est partie sur les routes. Alors, je pense qu'elle a fait ça pour être en mesure de pouvoir réparer sur la route, de comprendre comment fonctionne son vélo, qui allait être quand même son compagnon pendant tous ces mois. Et elle est partie donc de Plouhère-sur-Anse. Et alors, elle est d'abord allée plutôt vers l'Espagne. Et puis, au fil de ses rencontres, puisque c'est ça aussi l'objet du bouquin, c'est les rencontres. Ça a changé son itinéraire. Et du coup, elle est allée jusqu'en Iran. Je trouve que ce qui est super fort dans ce bouquin, déjà, c'est la manière dont elle raconte. Elle a une vraie facilité dans la narration. C'est très, très limpide. Le dessin est très agréable aussi. C'est assez simple. Donc, c'est donc tout en noir et blanc. Mais ça fonctionne hyper bien. Et on voit chaque étape et tous les aspects, en fait, puisque déjà, rien que la première nuit, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui va dormir toute seule dans la forêt, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. C'est pas quelque chose que je serais, je pense, capable de faire. Donc, déjà, je me suis dit waouh. Et c'est ça, c'est le voyage seul et toutes les rencontres et la générosité qu'on rencontre sur le chemin. Je trouve ça hyper touchant et ça donne envie. J'en parle parce que c'est l'été et que c'est vraiment une BD qui donne envie de partir, qui est une vraie ode à l'évasion. C'est très beau.
C'est vrai que ça paraît gonfler une nana seule, quoi.
Ouais, grave.
C'est vrai.
Si jeune.
Enfin, il y a des questionnements. Ouais,
je pense aux parents, quoi.
Ouais.
Quand
ouais.
tu viens flipper. Et du coup, c'est incroyable. Et c'est une BD, en fait, qu'elle avait d'abord sortie. C'était auto-édité à la base. Et Delcourt, je crois que c'était vers 2022 qu'elle avait fait un Kiss Kiss Bang Bang, là, pour. Un crowdfunding pour financer la sortie de sa BD. Et Delcourt lui a racheté les droits et l'a publié là, en version cartonnée. Et c'est vraiment trop bien. C'est hyper agréable à lire et je pense que c'est aussi une BD intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on peut le lire vraiment à partir de 11-12 ans jusqu'à 99 ans. Ah. Donc
c'est un grand livre. J'ai envie d'utiliser une formule que nous a apprise M. Carpetto, parce que pour faire, on est obligé de réutiliser ce qu'ils nous apprennent. Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on est soumis au syndrome du patch-turner sur ce...
Alors oui, on est soumis au syndrome du page-turner.
Harry Page-turner, excusez-moi.
Bien joué, Roger.
Quel bon élève. Mais oui, effectivement. En fait, ça fait tellement du bien. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait tellement plaisir de lire ça que, effectivement, je tournais les pages, puisque c'est la traduction. Je tournais les pages avec plaisir et sans m'arrêter. Et c'était vraiment trop bien.
Dessin noir et blanc, c'est ça ?
Dessin noir et blanc, vraiment.
Ça fait assez underground américain, on dirait.
Ouais. C'est vrai qu'on peut y retrouver effectivement cette inspiration.
Est-ce qu'elle explique pourquoi elle a eu envie de raconter tout ça ?
C'est quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. Et du coup, elle dessinait, elle faisait des croquis pendant son voyage. Et je pense que ça s'est imposé tout naturellement, l'envie de transmettre. Et puis peut-être c'est une manière de prolonger aussi un peu ce voyage, parce que j'imagine que vivre autant de temps et d'aventures sur les routes, quand ça s'arrête, ça doit être un peu brutal. Et ça doit être l'envie aussi de continuer et de partager, parce que c'est vraiment aussi... le partage, ça fait vraiment partie intégrante de ce récit.
Et t'as tendance, quand tu pars longtemps, loin, etc., à vouloir garder des traces du truc. Elle a le talent de dessiner, donc elle a dessiné, mais autrement, t'achètes une carte postale dans chaque ville où tu passes, enfin ce genre de plan.
Ouais.
Moi, j'ai fait ça, bien sûr. Ouais, non, ça a l'air chouette.
Et vraiment, c'est... Quand
mais alors,
on...
pourquoi vous avez eu peur?
Ah, l'autre branleuse. Est-ce que vous avez été seulement de Rennes à Sauvigné-sur-Oust en vélo?
J'ai été dans le Berry mystérieux, moi, monsieur.
Non, mais là,
le nom du
ça
canal de Floc. Bien sûr, le nom du canal de Floc.
Le Berrichon n'est pas facile d'abord.
Il y a des gendarmes tous les 500 mètres.
Le Berrichon n'est pas facile d'abord.
Mais là, rassurez-vous, hein, c'est comme regarder le Tour de France, finalement.
Moi, je regarde jamais.
En vachement plus intéressant.
Ouais, ça lui donne
non,
le mal.
Je retire cette comparaison. La BD est beaucoup plus intéressante que le Tour de France. Pardon.
J'espère. Parce que cette BD, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie. J'ai eu la surprise de la revoir en vitrine dans la boutique dont nous tairons le nom. Et ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, c'est vraiment une BD sur le long terme. Parce que vous dites, elle est parue une première fois en crowdfunding.
Yeah.
Eh ouais, vous avez qu'à te prendre des
tu
notes.
Tu joues, je dois placer ces cinq mots-là dans l'émission, c'est ça?
Attendez, parce qu'à chaque fois, il faut nous apprendre des trucs, j'aurai de plus en plus de mots à passer.
Roger la science.
Mais je note l'effort. Ouais. C'est beau.
Qu'est Fayotte.
Et comment dirais-je que ce bouquin-là se retrouve toujours et puis que. Et je crois qu'il y a eu pas mal de succès. Je crois que comment.
Mais oui, ça fonctionne hyper bien. C'est un livre qu'on nous a beaucoup demandé. Donc il y a eu aussi beaucoup de presse autour de ce bouquin. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé dans les médias. Et puis, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est quand même intergénérationnel et qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc c'est un livre, nous, qui est facile à conseiller en librairie. Et puis, il y a quand même beaucoup, on voit de plus en plus de sujets très durs traités dans les BD quand c'est des gens qui veulent un peu du récit de vie, de l'histoire, etc. Ouais. Et là, pour le coup, c'est du récit de vie, mais c'est pas...
positif.
Voilà, là au moins c'est positif. C'est du... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas raconter le négatif, hein, ça fait partie intégrante du monde dans lequel on vit, mais parfois, quand dans les moments de lecture, ça doit aussi être de la détente, et bah, ça fait du bien de lire des choses comme Plouhéran. Donc,
alors,
paru chez Delcourt.
Est-ce qu'elle parle de l'atterrissage, justement, du moment où elle aura fini son odyssée, où elle se retrouve avec son vélo qui rouille devant chez elle? Non,
non, elle n'en parle pas. Non, non. Là, on va vraiment jusqu'à la fin du voyage. C'est vraiment carnet de voyage. Du début, alors, de l'idée, mais tout se passe très vite, finalement, jusqu'à la fin, mais on n'a pas le retour après. Ouais.
Okay. Alors moi j'ai bien tout noté, mesdames. Ça s'appelle Plouhéran, à vélo de la Bretagne à l'Iran, d'Isabelle Delréal, c'est ça?
Delréal, ouais.
Delréal, voilà. Et c'est chez Delcourt.
C'est ça, et c'est trop bien.
Bien joué, Roger.
Madame, il y a monsieur, il y a plus, il fait rien que pour se moquer.
Pas du tout.
Et
pas
j'ai tout bien noté le mot.
Mais oui, on sent que c'est la fin de l'année, ça se dissipe. Non, hein.
Ça se dissipe. Vous êtes un type qui prend des notes, je le sais bien. Crowdfunding, turning page.
Le mot de la semaine, le mot de la semaine de l'invité, crowdfunding, j'avais noté la semaine dernière, le mot du jour, patch turner.
Voyez, mais c'est ça, c'est que des expressions anglaises finalement.
Ah ben oui, mais c'est...
Parce que c'est ça l'avenir.
Ah, c'est vous
ça.
Les
Roger, c'est Wall Street, Wall Street Info. Ah. Wall Street BD.
À qui que c'est maintenant, à vous.
Comme vous voulez. Ah bah je veux bien. Allons-y. Je suis très content de vous chroniquer Candy Superstar et les muses du pop. C'est vraiment un album que j'ai beaucoup aimé et j'adore le nom de la scénariste Claire Translate.
Oh yeah.
Je trouve que c'est super bien trouvé. Claire traduction. Livio Bernardo au dessin. C'est paraît chez Delcourt chez Ancrage. En fait, c'est l'histoire d'un trio. De copines, Candy, Holly et Jackie, qui forment un trio lié par en fait leur identité de genre. Donc on rentre dans le monde de la transsexualité. Et eux, c'est des dolls, comme on dirait. C'est-à-dire, c'est des femmes trans, quoi. Et elles sont soudées par ça et par une grande ambition artistique. On est dans le New York des années 60, début 70. Ça commence en 63. On va plonger dans ce l'underground new-yorkais de cette époque-là. Forcément, donc, on va tomber sur Andy Warhol, La Factory, le Max Kansai City. Et on va voir ces trois personnages, donc trans, qui... par leur ambition artistique, vont être dans l'ombre, vont essayer de s'incruster, de percer grâce à Andy Warhol qui a toujours eu effectivement, comment dirais-je, il y avait tout un univers queer pour faire simple autour de lui, quoi. Enfin, c'est évident, quoi, quand on connaît son œuvre. Donc elles sont là parce que c'est le mec qui peut quand même tourner dans un film d'Andy Warhol, etc., être sur un tableau d'Andy Warhol. C'est bon, c'est la nature. Elles ont un côté diva, quoi. Elles ont un côté diva. Donc elles sont un peu soudées par ça, et en même temps, comme elles ont un côté diva et beaucoup d'ambition, elles n'hésitent pas à se faire des coups de pute, parce que franchement, entre elles, enfin, tu vois quoi, si on peut te piquer ton bonhomme, mais aussi ta réplique, enfin, je veux dire, faut vivre quoi. C'est pas facile d'être une femme trans, une doll, dans le New York des années 60, quoi. On le voit, il y a tout un background. Il y a une petite trouvaille graphique qui est super bien, c'est les transphobes, même on va dire les transphobes homophobes, les policiers new-yorkais, etc., qui sont sur leur dos et avec qui elles ont régulièrement maillé à partir, notamment la police qui fait un véritable racket hein, quand on regarde ce qui est raconté. Ils sont dessinés comme des silhouettes noires, quoi. Ils ont pas trait de visage, on voit pas leurs habits, on comprend juste, parce qu'il y a le profil, le flic, il a sa casquette, etc., que c'est juste des forces du mal, en fait. Je trouve cette idée vachement bien.
Bah, carrément.
Et donc on va les suivre dans leur tentative pour éclater sur la grande scène, et puis dans leur rivalité interne, et puis à côté de ça, tu vas découvrir vraiment le petit monde d'Andy Warhol, la Factory, le Max Kansas City. Tu vas découvrir, tu vas croiser Lou Reed, qui est quand même aussi un personnage qui effectivement dans l'inclusivité a beaucoup contribué. On pense souvent à Bowie, mais en fait Lou Reed a joué un rôle important. D'ailleurs, un des personnages qu'on dit qui est pris un peu comme le personnage central, mais finalement c'est vraiment les trois filles quoi qui font tout le sel. Candy est cité en fait dans plusieurs chansons de Lou Reed, dans Walking on the White Side. Il y a même une chanson qui lui est complètement dédiée qui s'appelle Candy Says.
Ouais. Okay.
Pas la chanson la plus rigolote du monde, faut bien reconnaître. Certains peuvent reprocher peut-être à nos personnages d'être quand même assez superficiels parce qu'elles participent pas à Stonewall, aux manifestations. Elles sont là. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on se concentre sur leur vie. On n'est pas tous militants. Mais rien que le fait, en fait, qu'elles assument ce qu'elles sont et qu'elles essayent de, finalement, de le populariser, de le diffuser. C'est une manière de dire j'existe qui, finalement, est tout aussi valable que le militantisme. Exactement.
Soi,
c'est politique pour moi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, si on lit bien, on s'aperçoit que c'est vraiment un monde terrible, quoi. Entre la prostitution, les rejets, l'homophobie, qui est déjà très, très forte. Alors, la transphobie.
elle atteint ce que c'est aujourd'hui, dans les années 60.
C'est fou, quoi. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé enfin plonger dans ces, suivre ces trois c'est drôle de dame on va dire. Alors le dessin peut cliver, ça je reconnais aussi. Il y a beaucoup d'aplats monochromes, mais son dessin c'est vraiment ça ressemble presque
personne ne le verra
entre l'underground américain et puis aussi des par moments presque du dessin de presse, de la caricature avec des gros aplats, etc. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein, moi ça m'a pas gêné. En fait, il y a aussi un parti pris graphique. C'est très bien. C'est très bien. En tout cas, pour le propos, et moi je trouve pour le dessin aussi, parce qu'il y a quelque chose de finalement de singulier. Je vous conseille vraiment Candy Superstar et les muses du pop. Claire Translate. Alors, j'adore vraiment ce nom. Et Livio Bernardo. Ouais, je trouve ça super.
Trop cool.
Ouais, c'est bien. Bonne BD. Très bonne BD. Interlude musical ou quoi?
Ouais.
Allez.
Du coup, j'ai mis un morceau un peu en lien. Allez, là, on parle. Mickey Avalon, un personnage. On va vraiment aller dans le Dark Side.
We are going to have open sexual intercourse on every street corner of America.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die. I kick twice the shit as any German shyster flick. All sperm in your perm, leave cigarette burns on your tip. It's Mickey Avalon, all up in your prom, pissing in the fruit punch with a baby blue tuxedo on. The dopest rapper this century, I sodomized your father in the federal penitentiary. And on the day I got out, I went to your mother's house and slept on the couch. A streetwalker selling cock for rock at the flea market trying to hawk my wash. I stay on beat when I work the concrete.
Some honeys give me money and others do my laundry.
Mickey Avalon, the kosher salami. For 20 you get chachi, but 40 gets you Fonzie. A motherfucking hustler kamikaze. I used to bust tables, but now I sell my body.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die.
Here's how we're going to do it. For the first time in America, there is a generation of visionary, maniac, white mother country, dope fiend, rock and roll freaks who are ready to get down.
I deliver quick with a magic step. Tragedy subside when honeys rub on it. It's Mickey Avalon, dick thick as a baton. The illest motherfucker from here to Vietnam. I used to work nights at hotcock.com, but then I got fired when my mom logged on. I'm on the run, my dad's a bum. I asked my girl if she loved me and she just said, oh. I bust flows that turn nuns to hoes. I'll wake you from your slumber, then shake you out your clothes. There ain't no other late night lover all up on the track like Scatman Crothers. I'll bust through the shutters, masked in a rubber, duct tape your mother and butt rape your brother. Break down the lumber and shake my cucumber. When you're at home alone, you know my phone number.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder that God must be one sick motherfucker. So I bust a nut in the sky, spend another day waiting to die.
C'était le Mickey Avalon de Los Angeles. Alors, c'est l'heure de la chronique à Roger.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va pas rigoler. On va...
Ah bah alors.
Ah ouais, non, mais... Après, je vous parlerai du dernier ouvrage de Lisa Mandel, par ailleurs, paru aux éditions Exemplaires, qui aborde...
Vous avez vu comment il vient de nous en a placé deux, là, mine de rien.
Ouais. Ni vu ni connu, je t'embrouille.
Ouais. La fin du monde avec le gobelet d'entrain. Non, avec Hilde... alors j'ai noté, hein, parce qu'en plus de ça, je ne vois plus rien. Elle s'appelle, parce que c'est une autrice dont il s'agit, Virle, je dirais Virle, parce qu'il y a deux E, donc j'irais assez Virle.
Ouais, moi aussi, j'aurais tendance, je ne parle pas belge, mais...
Virle Hildebrandt.
Oh, ça pourrait presque faire scandinave. Hildebrandt.
Hilde, les femmes des... les femmes des Nibelungen, paru aux éditions Ospar. Alors justement, j'en parlais avec notre invitée, Madame Matadora, et je lui disais justement l'intérêt des éditions Ospar, c'est que, qu'on peut dire Ospach, hein, si à la bretonne, puisque ça c'est A-N-S-P-A,
O-S-P-A-C-H.
Il n'y a pas d'apostrophe.
Et il n'y a pas d'apostrophe, c'est vrai. Et comment dirais-je...
Soyons précis.
Et grâce à eux, eh bien, quand c'est de maison d'édition, et ben on a accès à des travaux réalisés dans, au sein de la BD flamande, je dirais peut-être allemande ou suisse, etc., auxquels on n'a jamais accès d'habitude. Et vous vous rappelez qu'on avait invité Peter de Porter, et il nous disait ça justement parce que lui, alors on avait la chance qu'il parlait quand même suffisamment bien français pour qu'on puisse réaliser l'interview.
Tout à fait. Merci à lui.
Il nous faisait, comme on parle justement, de l'importance de la BD flamande en Flamandie, etc.
chez les Flamandiers
et qu'on ne connaît pas et qui est très peu traduite. Il nous disait même à tel point que Peter de Porter, qui est quand même très drôle chez nous, paru chez Glénat, Peter de Porter, je crois, avec son personnage
Dickies,
c'est très trash.
T'es pas du puits?
Non, c'est un peu trop trash, je pense. Et lui, comme c'est un flamand, il est d'abord traduit en France avant de retourner en Belgique francophone. Ouais, okay. C'est hallucinant. Hein. Ça va même très loin, cette opposition. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, on n'avait jamais entendu parler de Wille Hildebrandt, non plus de Hill, une histoire librement inspirée des sites des Nibelungen. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, Nibelungen. Mmh.
Ça sent le Wagner.
Ouais, ça sent. Alors justement, les Nibelungen, on a une petite notice, un petit mot d'explication. On vous dit que les Nibelungen, c'est une épopée héroïque germanique du XIIIe siècle, omniprésente dans la culture allemande, pour ne citer que deux célèbres adaptations. Pardon, Richard Wagner s'en est inspiré pour composer son célèbre cycle musical en 1853, et Fritz Lang a réalisé un film muet du même nom en 1924.
Ouais.
Et malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, les références à la saga ont été nombreuses, comme la ligne Siegfried notamment, puisque, et c'est curieusement, c'est pas les Allemands qui lui avaient donné le nom de ligne Siegfried, c'était les Alliés. Et puis naturellement, les nazis se sont servis aussi des mythes comme des Nibelungen pour étoffer leur discours raciste.
Hitler allait à Bayreuth pour écouter, effectivement, il y avait chaque année le Wagner était joué.
Alors là, on est loin, Dieu merci, du drame nazi, mais par contre, c'est pas plus gai. On est en vers l'an 400 et des brouettes, l'Empire romain s'est effondré, de nouveaux royaumes ont vu le jour. Notamment la Burgondie. La Burgondie, c'est à peu près à cheval, je dirais, sur, c'est Dijon, ça va jusqu'à Dijon, c'est le Jura suisse un peu aujourd'hui, c'est un peu de la Belgique, vous voyez. C'est la Burgondie. Et la Burgondie, à l'ouest, ils ont les Francs, et à l'est, ils ont les Saxons, et plus loin encore, ils ont les Huns, vous voyez. Donc, ils ont des voisins assez tumultueux, on va dire.
Je crois que les Burgondes sont très drôles dans Kaamelott.
Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête.
Couillère. Troupaskaya.
Et donc, là, par contre, aux antipodes...
Ça, c'est pas du groenlandais.
C'est
du Burgonde.
Aux antipodes de la Burgondie, librement adaptée aussi par le monsieur de Kaamelott,
Astier.
Là, Wille Hildebrandt nous narre l'épopée tragique de deux femmes que tout oppose, la reine d'Islande et une des filles du roi de Burgondie. En fait, le roi de Burgondie a quatre enfants, trois garçons, comblés hein, pour un roi. En général, naturellement, comme c'était une culture franque, les femmes n'étaient pas jamais appelées à régner. Et donc, voilà. Et il y avait une seule femme, malheureusement, une seule fille. Malheureusement, c'est elle qui avait tout empoché. La beauté, l'intelligence, le courage, la force. Les trois mecs sont un peu des nains. Et ils vont tomber sous la coupe, à la mort du père, ils vont tomber sous la coupe d'un espèce de conseiller félon, un vilain, avec un nom de barbare, un nom germanique. Et ils vont se servir de leur pauvre sœur blonde pour servir leurs intérêts. En fait, trop couard pour conquérir la reine d'Islande, le roi de Burgondie, le nouveau roi de Burgondie, va faire appel à Siegfried. Vous savez, le héros qui est tueur de dragons, là. Mm-hmm. Et il va venir casser la gueule à la reine d'Islande, parce que la reine d'Islande a dit qu'elle ne se marierait qu'avec l'homme qui la battrait.
C'est vrai. C'est une Amazone.
Ouais. Il faut pas la faire yèche, la reine d'Islande. Et malheureusement pour elle, elle tombe lors d'une traîtrise, espèce de coup de patte. Le Siegfried, avec un coup de patte, il fait tomber la reine d'Islande.
C'est pas du jeu.
Ouais, pas du jeu.
C'est marrant, j'ai l'impression que vous racontez la vie de la librairie dont on tira le nom. Ça me fait beaucoup rire.
Et donc, la malheureuse reine d'Islande est emmenée quelque part en esclavage, où elle va devoir se marier de force avec le roi de Burgondie. Et cerise sur le gâteau, Hilde, la jolie blonde, elle, quant à elle, est envoyée dans les griffes de Siegfried, loin vers l'est, où effectivement, elle va finir par bon gré mal gré, surtout mal gré, par donner naissance à une fille, mais dont elle va se détacher assez vite, parce que c'est quand même le fruit d'un viol, quelque part, et elle n'éprouve pas forcément d'amour filial face à une gosse qu'on lui a imposée, un mariage qu'on lui a imposé. Et il en va de même également pour la reine Brunehilde, qui est forcée de se marier avec le roi de Burgondie. Comment tout ça va finir, je peux vous le dire mal. Très très mal. Surtout pour Hilde. Hilde, c'est vraiment la victime totale, quoi. Elle va prendre chaud pendant tout le bouquin, ça va finir mal pour elle, et elle le dit en mourant, et dit au moment où elle meurt, elle dit enfin libre.
Oh, wow.
Et c'est du coup, pouf. Et l'autre, quant à elle, Bruno Hilde, elle aura un destin plus rieur, puisque elle accouchera.
Vous spoilez la fin, là, bon.
Non, mais elle accouchera d'une fille qu'elle pourra sauver. Elle pourra la sauver, certes, mais on a envie de dire la fin, parce que sinon, c'est pas vendeur. Si je vous dis comme ça, l'épopée de deux femmes, qu'on va forcer à épouser des vilains qu'elles n'aiment pas, qui sont prises de force, surtout la reine d'Islande, parce que là, elle se laisse pas faire. C'est Jean Cheval Fougueux, donc le roi, là, il est obligé d'appeler l'autre pour la tenir. Vous voyez l'ambiance. Donc, c'est très, très glauque, très vilain, et il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice et
c'est les mythes germaniques, Roger. Qu'est-ce que vous voulez
Il fallait imposer des choses, des idées.
L'autrice, par contre, Hildebrandt, ne se cache pas d'avoir librement interprété un des mythes des Nibelungen et d'avoir voulu en faire, avant toute chose, une ode à la féminité, à la sororité et un rappel de ce qui en était, de la condition des femmes, quelque chose. Soit leur valeur, quel que soit leur rang, parce que là on parle de princesse, vous voyez, de reine, de princesse, mais ils n'en valaient pas mieux d'une princesse que d'une paysanne, elles n'avaient aucun pouvoir sur leur vie, point. Voilà, ça s'appelle Hilde, les femmes des Nibelungen, mais c'est très très bien. Alors il faudrait rajouter à ça un dessin. Est-ce que vous pourriez m'aider, Madame Matadora? Moi ça me fait penser un peu à un livre d'illustration pour enfants, vous savez, un livre d'histoire.
Ouais, après c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les... Oui, alors il y a un petit côté qui peut faire
un petit peu
jeunesse. Ouais, c'est vrai. Bah non, je trouve que le trait est trop flou pour que ça fasse du Disney. Mais il y a de plus en plus de BD, là. Ça me fait penser à une BD Parjure qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui était en noir et blanc, mais qui a un petit côté comme ça.
Mais très coloré, je veux dire, comment elle ne chipote pas sur les couleurs, les personnages.
Ouais, c'est clair.
Et par contre, très stylisé. On est dans un... certains personnages, on dirait, ont même le profil grec, vous avez vu,
carrément, ouais. Et puis, ce qui est marrant, ça se fait de plus en plus, c'est qu'il y a une opposition assez franche entre ce qu'on est en train de nous raconter, qui est hyper dur, et un dessin qui serait un peu plus léger.
Tout à
fait. Et ça, en général, ça fonctionne bien sur le fait de un peu moins plomber la lecture.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est hyper intéressant, ça a l'air très chouette.
Voilà, c'est pas une nouveauté non plus, hein, c'est paru en février, déjà. Ouais,
oh,
ouais.
Ça va, on est bien. On est d'accord. De l'année quand même.
Oui, de l'année, oui. 2025.
C'est
paru
en 1998.
Février 2018.
Non, 2025.
Très très bien. Donc, rappelez le titre, Hilde.
Chez Anspar.
Et c'est
Les femmes des Nibelungen. Yep. Une ode féministe, un pamphlet féministe le bienvenu parmi les temps qui courent. Vous avez vu, il paraît qu'il y a des virilistes maintenant qui tuent les femmes parce que les femmes ne les trouvent pas jolies. Au secours.
C'est pas tellement nouveau, mais effectivement, ouais.
Ouais, mais maintenant, c'est le meurtre, maintenant.
Exactement.
Ça fait un peu flippy-flippo, quand même.
Alors, une autre histoire de féminité?
C'est pas tant de la féminité, mais ça va pas être une histoire très rigolote.
Ça va pas être rigolo non plus.
Non, ça va pas être rigolo non plus. Bah ok,
super,
bah sans
les
transition, allons-y. Mais on a
c'est
commencé.
L'été. You.
On a fait ça dans la première partie de l'émission, et là on vous plombe pour cette fin
on
d'émission.
On prépare septembre.
C'est ça. Alors moi, c'est quand même, je vais vous présenter La Boucle, qui a reçu le prix de la meilleure BD finlandaise.
On fait dans le Nord, pour se refroidir.
Dans la Scandinavie, on s'était pourtant pas donné ce mot d'ordre, mais alors c'est hyper chouette, donc ça s'appelle La Boucle, c'est Kimmo Lust, l'auteur. J'ai un doute. Du coup, c'est paru chez Glénat et alors c'est assez soufflant. Moi, je vous avoue que j'ai eu des frissons et la larme à l'œil pendant quasiment toute la bande dessinée. Alors, le propos est très dur et le dessin en rajoute. Moi, il y a vraiment des scènes, la mer qui dégouline. Enfin, bon, c'est assez fort. C'est l'histoire d'une petite jeune fille, d'une enfant, qui, en fait, je crois que c'est autobiographique. Et du coup, cet enfant raconte sa vie avec une mère alcoolique et dépressive. C'est vraiment l'horreur du début à la fin. Enfin, non, pas du début à la fin, puisqu'on a quand même une petite touche d'espoir à la fin, justement. On finit pas sur quelque chose. Ouais, on finit pas sur quelque chose de trop dur. Et c'est cette petite jeune fille qui est constamment livrée à elle-même, sa mère qui a un terrible problème d'alcool, du coup qui est très malade et qui n'est pas du tout présente. Elle se réfugie, cette jeune fille, avec une petite peluche qui la protège et qui la rassure en permanence. Mais rien ne va. En permanence, elle est seule. Elle se demande constamment si sa mère va rentrer, si elle est morte. Si quand elle s'endort ivre morte sur un transat, si elle va se réveiller. C'est ce genre de propos qui est... Mais en même temps, c'est hyper fort et je pense que quand on a vécu ça, ça laisse forcément des traces. Et là, moi je trouve que ce dessin, alors c'est un dessin très particulier, mais il y a vraiment des choses comme ça, un peu floutées, un peu dégoulinantes. Et quand je parle de dégouliner, c'est ça, c'est la mère qui est vraiment au bout du rouleau et qui est dessinée vraiment avec les yeux qui coulent, elle est au bout de sa vie et elle va pas bien, elle veut pas se faire soigner, elle n'arrive pas à franchir ce cap-là. Et donc, à travers plusieurs années, on voit cette petite jeune fille qui n'a en plus... Enfin, il y a un truc qui est rajouté, c'est que c'est dur à la maison. Du coup, elle est un peu ostracisée à l'école aussi. C'est dur à l'école. Elle n'a aucun endroit où elle est en sécurité, où elle se sent bien. Du coup, c'est en ça, je trouve que c'est très, très dur. Et c'est une jeune fille qui va devenir adolescente. L'adolescence, vous le savez bien, c'est un moment aussi très compliqué. Voilà, je vous montre des scènes au passage là, de la maman qui va pas bien, incapable de se tartiner, de se mettre du beurre sur une tartine. Et du coup, cette jeune fille va devenir adolescente. Elle va évidemment... à cause de cette enfance tragique et de ces conditions de vie effroyables, c'est une jeune fille qui va tomber dans la dépression, qui va glisser gentiment elle-même vers l'alcoolisme, ce genre de scène, qui va faire des rencontres et qui va se laisser abuser dans tous les sens du terme, qui va se rebeller aussi par moments contre cette mère qui elle en veut, mais en même temps elle se rend compte que sa mère est malade, que ça ne va pas. Donc c'est l'impuissance face à cette situation, c'est l'envie de voir cette mère mourir aussi parfois. Enfin, il y a vraiment tout est abordé en fait dans ce lien avec un parent dysfonctionnel entre guillemets. Et en ça, moi je trouve ça hyper puissant, hyper fort. Et jusqu'à l'âge adulte et cette jeune femme qui va devenir elle-même mère, qui va être un moment, j'imagine, très stressant, qu'il l'est de base, mais je pense que quand on porte un fardeau aussi lourd, ça l'est encore plus. Donc voilà, c'est très très fort, très puissant, pas rigolo, mais très beau. Voilà.
Voilà, voilà, on vous remercie. J'ai senti la température qui montait aussi quand même. Ça s'appelle la boucle.
La boucle, ouais.
Kimoluste.
Exact.
Voilà.
Chez Glénat.
Chez Glénat. Et bon, on peut s'écouter un petit Dix, peut-être.
Ouais, on va se détendre un peu.
On va plutôt faire ça.
Living in a world of my own. I feel safe just being alone. Living in darkness, living in a world of my own. I feel selfish doing everything by myself. I feel so cold. I wanna live to be a couple thousand years old. Ashes to ashes.
Well, I thought I knew somebody that I could trust. Now I'm not so sure. I feel safest being alone, living in darkness, living in a world of my own. I feel safest being alone, living in darkness, living in a world of my
C'était l'agent orange de la programmation à qui on le dira pas. Il faudra regarder sur le blog.
C'est ça.
Alors c'est à mon tour.
Ouais.
Oui.
Ah c'est parce que Roger il avait annoncé son Lisa Mandel, mais ok.
J'aurai le
merci.
Temps après,
merci.
Le temps après,
vous respectez l'ordre. C'est ça, ça me surprend de votre part. Ça me touche. Ça me touche. Vous êtes gentil. Alors c'est une BD qui date un peu, mais que j'ai relu il y a pas longtemps, et puis je crois que je l'avais pas chroniqué, donc je me suis dit allez, c'est Monsieur Munoz et Alcalonte, donc le scénariste de La Bombe, qui nous propose G.I. Gay chez Air Libre. J'aime bien cet album. On est en décembre 1941, on va suivre les aventures en fait de deux gars, Alan Cole, il est psy. Il vient de la bourgeoisie de Californie, hein, voilà. Il a une bonne profession. Il a appelé à faire un beau mariage avec Sue, la fille d'un général. Papa était vétéran de 1917. Sauf que le 7 décembre 1941, pouf, jour d'infamie, Pearl Harbor. Déclaration de guerre. Mobilisation, engagement. Alors lui, comme il est psy, normalement, il pourrait éviter de se mettre en kaki. Le problème, c'est beau papa. Beau papa lui met la pression. Te mariera quand service fera.
Génial.
Et puis, tu sens que c'est pas un personnage qui a beaucoup de résistance, quoi, au départ. Tu vois, qui est un peu comme le roseau. Il plie. Bon, donc il plie, il s'engage. Après, ça, finalement, il a quand même une bonne pioche, comme il est médecin. Et psy, notamment. Et on le fout à un bureau et il voit les jeunes gars qui défilent et apte, pas apte, tu vois. C'est lui qui fait le conseil médical d'incorporation. Et ça va très vite, hein. La scène où il arrive donc pour prendre ce poste, parce que ça s'enchaîne très vite au début. L'histoire commence vraiment, voilà, quand il commence à rentrer, quand il prend ce boulot, quoi. Enfin, quand ça devient sa fonction militaire. Parce qu'il est briefé par un médecin militaire de carrière qui lui explique comment faire le tri, quoi. Alors, tous ceux que tu sens dépressifs, psychopathes, tac, tu vires les alcooliques, tu vires, etc. Et puis, à un moment, les homosexuels, tu vires. Tu les vires aussi, on n'en veut pas. Tac. Alors, faut dire qu'il bosse pour les Marines. C'est un milieu, comment on dirait, inclusif.
Ouais, et assez viril.
Ouais, ouais, puis on est dans les années 40, faut pas se leurrer, quoi. Dans la BD précédente, dans les années 70, t'avais encore des affiches dans des bars interdits aux homos, quoi. Donc dans les années 40, t'imagines bien.
La fête.
La fête, quoi. Donc, voilà. Donc, il prend son poste et évidemment, va venir passer son conseil médical d'incorporation, le soldat Merle Gore. Et Merle, c'est un gars qui vient du Texas, qui est vraiment un rural, etc. Mais qui est assez extraverti et que tu comprends très vite que lui est gay et que ça lui pose aucun problème. Et en même temps, il est patriote, il s'engage. Puis de toute façon, il vient d'un trou perdu du Texas, il a été quand même rejeté par sa famille. L'armée, ça reste une opportunité pour, disons, avoir une table pleine, un toit, etc., ventre plein, un toit, etc., quoi. Et forcément, ça va perturber notre Alan Cole.
Oh,
voilà. Man. Et donc commence l'histoire, quoi. Voilà, la relation de ces deux gars. Il y a un côté Brokeback Mountain,
ouais,
si vous me suivez.
Dire, ouais.
Si vous me suivez, on comprend très vite où on va, quoi. Parce que ce qui fait tout le sel de cette histoire et toute sa cruauté, toute sa beauté, c'est que c'est dans le milieu des Marines américains, en temps de guerre, en plus. En temps de guerre, parce qu'ils vont partir à la guerre. Donc à un moment ils sont vraiment à l'autre bout du monde, que entre bidasses, sur une île hostile, parce qu'il y a des Japonais, mais on connaît les Japonais.
Lui mais, en tant que médecin, il va pas en première ligne.
Bah il va partir aussi, si. Il va avoir des raisons de partir. T'as pas suivi l'histoire ou quoi ?
Si, mais alors donc il renonce à son poste de psy pour aller en première ligne.
Okay. Ouais. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour dans ce contexte particulier. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, c'est un dessin assez classique, réaliste, mais très efficace. Hein. Voilà, si vous avez la bombe en tête, vous retrouvez ça. Alors là, c'est plus coloré. Hein, il y a un peu plus de couleurs. Mais c'est vraiment ce genre de dessin. Et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très sympa.
Et c'est Munoz et ?
Munoz et Alcante. G.I. Gay. Chez Air Libre. Je vous le conseille vivant.
Trop bien.
Ouais, c'est bien. C'est vraiment chouette.
Rebondissons avec quelque chose qui doit
être... Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah bon, vous avez annoncé, c'était qui?
Lisa Mandel.
C'est ça, Lisa Mandel.
Voilà, il se moque, chers auditrices et auditeurs.
Pas du tout, pas de Lisa Mandel.
Parce que je suis un grand fan de Lisa Mandel, non pas depuis Nini Patalo, qu'elle fait ça, c'est vieux ça, Nini Patalo.
Ça date un peu,
2000,
ouais.
Hein, ça date un peu. Une BD un peu pour enfants, oui. Avec qui elle s'était fait connaître, mais c'était déjanté, c'était très rigolo.
Mais c'était rigolo, ouais.
Ouais, ouais. Les adultes pouvaient le dire ça sans trop s'y perdre. Et donc, elle a eu... Après, moi, je l'ai découvert sur Instagram quand elle avait fait une année exemplaire. Vous savez, quand elle arrête de fumer, etc., de boire et tout ça. C'est très, très bizarre. Et là, j'ai découvert cette autrice qui est d'une drôlitude, comment dirais-je, exemplaire, justement.
Non, j'allais dire, ça vous perturbait parce que c'est un truc que vous ne feriez pas, vous. Arrêter de boire, tout ça.
Arrêter de boire, arrêter de fumer.
Cauchemar, quoi. Ouais. Horreur, malheur.
Écoutez, peut-être qu'un jour, je serai obligé, mais j'attends le moment où je serai obligé, et puis c'est tout. En attendant, voilà que Lisa Mandel, après avoir créé des éditions exemplaires,
oui,
d'ailleurs, eh bien, a été embauchée par l'Obs pour succéder à monsieur Riyad Satouf, qui faisait les chroniques d'Esther, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça.
Hein.
Voilà, et ben, il avait fait, comment Esther est grande maintenant, voilà, donc il faut passer à autre chose, et justement, bah, l'Obs a décidé d'embaucher Lisa Mandel. Et alors, c'est une lourde charge, parce que quand même, le dessinateur ou la dessinatrice de l'Obs, ce sont des gens qui sont très connus, dont la carrière peut basculer. Je pense à Claire Bretéché, qui a un peu inauguré la rubrique dans le Nouvel Obs. Je pense pas qu'il y en avait avant. Et puis, il y a eu plusieurs auteurs qui se sont suivis. Le dernier que je connaissais, Riyad Satouf, et enfin Lisa Mandel. Alors, Lisa Mandel, loin du concept de Riyad Satouf, elle décide de s'accrocher à l'info semaine hebdomadaire, quoi. Il faut se cogner, la fin du monde, Gaza, le dictateur turc, il faut se fader tout ça. Essayer de s'exprimer là-dessus. Si on s'exprime pas, elle le raconte d'ailleurs dans une de ses histoires, elles sont toutes intitulées Par ailleurs d'ailleurs. Et puis parfois il y a un sous-titre, parfois pas. En tout cas, ça s'appelle Par ailleurs. Et s'il y a toujours un sous-titre finalement. Et comment.
C'était écrit trop petit.
Ouais, sur une page. C'est sur une page. En tout cas, c'est présenté sur une page dans cette édition-là. Et c'est par rubrique. il y a une rubrique travail, famille, patrie, dissolution, LFI, etc., etc. C'est très très intéressant et surtout, c'est une personne qui me paraît assez modeste dans le discours et qui dit à la fin de l'ouvrage, elle va remercier. Merci aussi à Monsieur Pochep qui a su me donner confiance et m'a aidé à persévérer pour faire des blagounettes au cœur des plus sombres tempêtes de l'actualité. Or, loin d'être des blagounettes comme elle le prétend, elle fait preuve, je dirais, d'un humour trash. C'est un peu, moi j'ai une théorie là-dessus, j'en parlais
encore. Monsieur Yamatadora fait le con avec son pomponnette, ouais, elle arrête pas de faire le con avec sa pomponnette.
J'ai vu, mais vous allez voir, je vais la dénoncer à Monsieur Fifrelin, je dirais à Monsieur Fifrelin. Et elle, elle va, comment dirais-je, j'ai une théorie là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, le véritable humour trash, le véritable humour qui peut s'emparer de tous les sujets, sans finalement se faire trop taper sur la gueule, quoique, on peut toujours trouver une chéricou pour allumer une, comment dirais-je, une dessinatrice de Libé, hein, de temps en temps, elle va pouvoir, elle peut parler de sexualité sur en adoptant un registre punk, et ça me fait penser, chère Madame Matadora, à notre amie Elisabeth Pitch, qui elle aussi peut
tout
raconter n'importe quoi sans tomber sous les coups ou les foudres de la censure. Parce que de la même manière que quand on est juif, on dit bah oui, ben moi je peux faire de l'humour juif, je peux me moquer des juifs, je suis juif, qu'est-ce que tu viens me raconter? Eh bien, elle, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus libres et certaines, justement, elles en profitent et c'est très bien.
Ouais. Il y a une petite subtilité aussi parfois dans le propos qui leur permet aussi de pouvoir raconter ce genre de choses.
Et là, par exemple, elle se présente même ayant une relation sexuelle avec Marine Le Pen, sans que ça puisse poser de problème. Et comment dirais-je, elle est véritablement, elle a un côté trashy. Alors, pas un côté trashy forcément dans le dessin ou dans le discours, mais dans la forme du bourg très abrupte. Vous savez, c'est comme ça, et puis c'est tout, pan,
ouais,
pif.
J'impose ça, et puis vous êtes
voilà,
pas content,
voilà,
c'est pareil, quoi.
Voilà, si t'es pas content, c'est la même chose. Et c'est très très bien. Un peu à la façon de ce monsieur Pochep, là, qui est, comment dirais-je, dont on le sait que c'est avec lui aussi hein, qu'elle a confondu les éditions Exemplaires. Et ce monsieur Pochep qui l'encourage, et encore une fois, c'est loin d'être des blagounettes. Et ce qu'il y a de bien en plus, elle a le talent de raconter des histoires, malheureusement, sur des choses qui deviennent intemporelles, comme le conflit au Proche-Orient, l'extrême droite, l'homophobie, tout ce genre de saloperies que tonton Georges va nous balancer le jour de Noël entre la poire et le fromage. Eh bien, ça existait avant, ça existe maintenant, et ça existera encore demain, j'en ai peur. Mais quel que soit le sujet, elle arrive à rendre son petite histoire, elle a le talent de rendre ça un petit peu intemporel, ce qui fait que ça tombe pas sous le coup de, je dirais, du réchauffé. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, effectivement, on a affaire là à un recueil de rubriques hebdomadaires parues dans le Nouvel Obs et aux éditions Exemplaires. Il ne vous en coûtera que 19 euros, moins si, comme moi, comme vous aviez fait, oui, l'intelligence, pas comme moi d'ailleurs, de faire du crowdfunding, comme le fait à chaque fois.
C'était la fois de trop.
Les éditions Exemplaire, voilà. Lisa Mandel, par ailleurs, est-ce que vous avez encore un livre, Dame Matadora?
Non, on va s'écouter un morceau de musique alors.
Okay. Ouais.
Enfin, c'est ce qui était prévu en fait.
Oui.
Une chanson sur Fascist Bob, tiens.
The problem is, you can't see anything these days. It's true, you can't. You see, the problem is, everyone is so bloody woke. And I'll tell you another thing.
Shut up, fascist Bob. He's not got a job. It's not his fault. His country's fucked. Blame it on the immigrants. It's dead on the toss. Fascist Bob. All hope is lost. For fascist Bob. Asking what his country's gone. Fascist Bob has not been passing. Ignorance is built by the ruling classes. Fascist Bob, your time is good. The police are done. So are you. Fascist Bob likes to talk about purity, illegals, benefits and border security. Sits in the pub chats, his shit to you and me. Some folk listen, some cunts will agree. Fascist Bob needs his head kicked in, cause punching Nazis is not a sin. And you catch him, see ya, slaughter. And as you get pregnant
soap box, si on traduit en fait, boîte à savon. Voilà, c'était qui nous chantait une chanson sur Fascist Bob pour aller dans le prolongement de votre dernière chronique, Roger. Je crois qu'on a une dédicace à faire.
Ouais, juste une petite dédicace avec toute l'équipe de la librairie dont on taira le nom. On voulait rendre un petit hommage à Jeannot qui nous a quittés, donc on pense à toi où que tu sois.
Voilà, voilà. Oui, ça, nous finissons
donc. C'était un client, un lecteur.
Ouais.
Il aimait quoi, lui, Jeannot?
BD qui traitaient de sujets d'actualité, pas mal. Il lisait beaucoup de choses comme ça, ouais.
Il avait une grande barbe blanche.
Tout à fait.
C'est souvent les premiers à partir.
Peut-être que si on me laisse monter à l'échelle, je pourrais me casser le col du fémur, ça va accélérer, mais...
On se négociera ça plus tard.
Bon, bah c'est bien triste en tout cas.
Oui.
C'était un fidèle client.
Tout à fait.
Oh, c'est dommage. Je crois que c'est notre dernière mission de la session. On va donc prendre nos quartiers d'été. On va partir, certains, voir des trolls, si j'ai bien compris, dans les grands cailloux. Moi, ça avait plutôt finistérien pour commencer. Et vous, Roger, vous partez où?
Pareil, non, je vais pas partir.
Ah mais non, mais vous, c'est tous les jours dimanche au ghetto.
Ben bah, c'est ça.
Moi, je
pars tout le temps sur les routes.
Plus. J'aime plus faire comme tout le monde, et puis surtout c'est moins cher.
Ben ouais, et puis il y a moins de monde.
Ah, c'est clair. Ben on se retrouve sans doute en septembre. Du coup, la maison sera toujours là?
Bah toujours ouais, nous. Toujours debout.
Allez, on continue. Et puis bonne lecture.
Ouais, bel été.
Ouais, bel été, voilà.
Ciao.
Ciao.